vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles. Je vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles écrite par votre serviteur, lue par des comédiens du cru et ponctuée de musique. Je vous la fais courte, une émission où les nouvelles sont bonnes, d'où qu'elles viennent.
À peu de choses près. Comme beaucoup de mariages, le nôtre nécessita de longs mois de préparation. La date, l'église, le prêtre, les chants, les témoins, la robe, le costume, les invités, la liste de mariage, la salle, le traiteur, le menu, les plans de table, le DJ. Fallait-il que j'aie vraiment envie de me marier ? À la réflexion, oui. J'avais envie d'être belle, joyeuse, épanouie. Même brièvement, je voulais être heureuse. Heureuse de vivre ce jour où tout le monde vous aime, où même les plus indifférents, les plus inconnus, vous félicitent, vous souhaitent tout le bonheur du monde. J'avais envie d'être resplendissante et unique, ne serait-ce que quelques heures. Toute petite, je ressentais cette envie de virevolter, d'être regardée, pourquoi pas, d'être admirée. L'année du CP, à Noël, je reçus en cadeau une robe de princesse, rose, faite de tulle. Je paradais, rêvais de palais, de royaumes, de carrosses, de serviteurs, toute la panoplie qui se trouvait dans les contes de fées. Plus tard, je ne sais pas si c'est avec le prince charmant, je rêvais de me marier pour revêtir la robe de mariée. De savoir avec qui ne faisait pas partie de mes préoccupations. Je voulais être aimée, mais pas nécessairement aimée. J'ai rencontré Nicolas dans une soirée. Une de ces soirées où l'on fait tout vaguement. Boire, parler, sourire, danser, s'intéresser, écouter. J'appelle ça une soirée de surface. Ce qui ne m'empêchait pas d'évaluer les mâles présents. Je ne l'excluais pas de faire un peu d'apnée avec l'un d'eux. À l'époque, je papillonnais, je butinais, je passais de l'un à l'autre. Le petit matin me trouvait souvent déçu, mais dans le domaine des grands nombres, on finit toujours par tomber sur le bon numéro. C'est statistique. Nicolas, lui, côté sexe pur, ne se détachait pas vraiment du lot. Par contre, contrairement à beaucoup d'autres, il était attentionné. Ce n'était pas toujours couronné de succès, mais il essayait de ne pas me laisser en rade en pleine mer. Je ne demande pas à jouir à chaque coup, mais à arriver à bon port de temps en temps fait du bien. Un peu las de partir à l'aventure chaque soirée, je décidais de procéder à une sélection. Lorsque j'éprouvais un besoin de douceur, je faisais appel à Nicolas. Quand je ressentais l'impérieux besoin d'exulter, je contactais Martin, dont j'appréciais l'endurance, le savoir-faire, l'efficacité et l'absence de romantisme. Avec Nicolas et Martin, j'avais le choix entre un plan nounours et un plan cul. Après quelques mois d'une fréquentation assidue et réservée, avec Nicolas, nous louâmes un appartement. Appliquant un règlement tacite, nous cohabitions. Nous donnions probablement l'image du couple parfait. Un observateur attentif aurait pu déceler des failles dans cette apparente perfection. En public, nous n'échangions pas de gestes affectueux, nous ne nous donnions pas la main, nous vivions ensemble, chacun de notre côté. Respectueux, discret, Nicolas était facile à vivre. Il respectait mes choix, évitait ce qui aurait pu être source de conflits. Pour ce qui est du sexe, il ne m'imposait rien. D'une certaine façon, il était à ma disposition. Il attendait que je le sollicite et répondait plus ou moins bien à mes attentes. De toute façon, avec Nicolas, je ne demandais jamais la lune et ne l'obtenais d'ailleurs jamais. J'attendais d'être avec Martin. Avec lui, j'embarquais pour la mission Apollo. Le LEM se posait toujours sans encombre. Nicolas était au courant. Il ne s'en formalisait pas. Ce que l'on définit comme infidélité dans une vie de couple traditionnelle ne laisse pas de m'étonner. Infidélité et sexe sont irrémédiablement associés. Quand on nous dit « il trompe sa femme », oui, la plupart du temps c'est l'homme qui est infidèle, à se demander avec qui il le fait. Nous pensons 5 à 7. Le sexe n'est qu'une pulsion. On l'assouvit et l'on passe à autre chose. Pas de quoi faire un drame, ni bouleverser et remettre en cause toute une vie. Il y a tant de façons d'être vraiment infidèle. Quoi qu'il en soit, après avoir fait le bilan de quelques mois de vie commune, avec Nicolas, nous décidâmes de nous marier. Je ne sais plus qui aborda le sujet. Malgré une certaine appréhension et le stress lié à l'événement, la journée du mariage se déroula comme je l'avais rêvé. Martin fut le témoin de Nicolas. Aucun incident ne vint ternir mon bonheur. Oui, j'étais heureuse. L'horizon était uniformément bleu et ensoleillé. D'habitude plutôt réservé, Nicolas s'épanouissait, riait, blaguait, faisait preuve d'un humour que je ne lui connaissais pas. Je le regardais avec tendresse se mouvoir avec aisance parmi les invités. J'appréciais son élégance discrète. Il eut le bon goût de ne pas m'éclipser. Je serais presque arrivée à l'aimer.
T'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine, quelques notes à peine qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. Parce que c'est orageux, avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine qui forcent mon cœur, qui forcent ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène, sans armée, sans haine, j'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre.
Je vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles.
Je ne sais plus. Dans le silence des débris du bruit, alors que le temps s'essoufflait, je m'éloignais avec cette phrase. Je la répétais pour ne pas l'oublier. Combien de phrases m'avaient ainsi échappé ? Je faisais toujours confiance à ma mémoire. Et puis l'oubli du lendemain, ou même de l'heure suivante, je possède pourtant un carnet dont les pages demeurent blanches, dans lequel je suis censé noter ce qui me traverse l'esprit. Des mots, des phrases, des impressions, des fragments, le début de quelque chose. J'osais croire que les mots m'apaiseraient, me rapprocheraient de ce matin-là. Je m'éloignais de mon point d'ancrage. Je croyais pouvoir ainsi me libérer. Aller le plus loin possible était ma destination, pour pouvoir pleurer dans mon coin. Peut-on être dans son coin face à la mer? Le vent sécherait mes larmes avant qu'elles ne coulent sur mes lèvres. Pourtant, j'aime leur goût salé. J'atteignis le bord de la falaise, tout au bord, plus près, et je tombais. Loin de moi cette intention. Je me disais que je pourrais penser, que de profondes pensées me viendraient face à la mer, face à l'immensité. J'imaginais l'inspiration que même l'horizon ne saurait limiter. Assis, les jambes dans le vide, j'attendis. Je disposais du temps, de tout mon temps. De leurs talons, mes pieds heurtaient la craie. Je marquais le rythme d'un air qui me traversait la tête. J'avais l'habitude de chantonner. De marmonner, disaient certains. Au début, je jouais un rôle, celui du solitaire. Un plan fixe avec une voix off et la mer comme compositrice de la bande-son. Le spectacle de cette masse mouvante me dispensait de penser. Peut-être même mes angoisses seraient-elles emportées par le vent. Elles finiraient déchiquetées. En attendant de me départir, je regardais les vagues de haut. J'imagine que le but de chacune d'elles est de remonter le plus près possible de la falaise. Je sais, c'est idiot de prêter une quelconque intention à de l'eau. Fussent-elles salées. Pourtant, je me dis que l'une après l'autre, elles essayent de participer à l'érosion de la barrière crayeuse qui se met en travers de leur chemin. Elles viennent de loin pour s'échouer ou se fracasser. J'aime les observer. Je fais porter mon regard aussi loin que possible et j'en choisis une. Il arrive que je la perde de vue en cours de route ou qu'elle fusionne avec une de ses congénères plus lentes. Quand je parviens à en fixer une, je l'accompagne. Au début, elle fait partie de la houle sans que l'on puisse déterminer si elle ira jusqu'au bout. Elle finit par se former, masse d'eau unique. Elles sont toutes différentes. À son sommet, le blanc de l'écume recouvre le vert de l'eau. Sa puissance devient un fracas d'éclaboussures. Avec l'énergie dont elle dispose encore, elle recouvre le haut de la plage. Mais parfois, le reflux de la vague précédente l'entraîne vers le large avant qu'elle n'atteigne la falaise. Un bateau qui traversait l'horizon me sortit de ma rêverie. Je me surpris à ne penser à rien. Dans le vent soulevant les réminiscences incessantes, je m'abandonnais au vide et à l'immensité. J'étais un oubli du temps, dans le silence des débris du bruit.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille, quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon, et te voilà, Cécile. Ma fille, et te voilà, et me voici. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. On est né à né, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie des filles, j'en avais eu, jouant mon cœur à faire.
soupir de la brune gagnée à la blonde perdue. Cécile, ma fille, et je sais que bientôt toi aussi tu auras des idées. Et puis des idylles, des mots doux sur tes hauts et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille, moi je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes. Mon baiser sur ta bouche dans ton sommeil d'enfant. Cécile, ma
vous la fait courte, une émission mensuelle de nouvelles.
Tout ça pour ça. Pour ce qui est de son orientation sexuelle, je crois qu'il a perdu le nord. Je ne serai pas péremptoire, mais le doute en lui s'est au moins immiscé. C'était un soir de pleine lune. Elle s'appelait Claire. Il l'avait rencontrée à l'occasion. À l'occasion d'un mariage, probablement. Il s'était dit que c'était l'occasion. L'occasion de tenter, de se laisser aller à la tentation. Il n'avait jamais osé grand-chose. Il avait déjà ressenti l'envie. L'envie qui vous donne l'impression d'être en vie. Mais en ce soir solitaire de lumière satellitaire, l'envie, l'expression timorée d'une incertitude, fut emportée par le désir de la découverte. Il prenait le risque de la déception. Renonçant au refuge d'un subterfuge, il s'avança vers elle, se disant qu'il trouverait bien quelque chose à lui dire. Assez proche, pour une accroche sans équivoque, il lui parla. Quelques mots. « Savez-vous, oh, si peu de choses. Laissons les mots se reposer, » lui répondit-elle. En peu de pas, elle l'emporta plus loin, à l'abri des débris musicaux d'un romantisme de promotion. Ainsi mis à l'écart, ils se rapprochèrent. Une légère chaleur, dissimulée dans les replis, lui fit comprendre qu'il lui fallait aller de l'avant. À portée de désir de Claire, il caressa son genou et l'espoir d'aller plus loin. Comme si de rien n'était, elle le laissa faire. Le moment pouvait se rompre. Une rencontre de fragilité. Disparition dans le prolongement de leurs ombres. Comme souvent, il hésitait. Il était indéniable qu'il avait quand même osé, un peu. Il en aurait été presque fier. Fier de ce qu'il considérait comme une audace, même s'il n'allait pas plus loin. Il aurait quelque chose à raconter pendant le déjeuner du lendemain. Dans ce cas, il lui faudrait trouver une chute crédible, répondre aux questions qui ne manqueraient pas. Ces questions qui bénéficie du sceau de cette virilité qui croupit au fond des slips bâillant d'ennui. D'habitude, il se contentait de regards, de sourires, dont il était difficile de déterminer la nature. Politesse ou invitation ? Il lui arrivait de s'enhardir et d'entamer une conversation, mais tellement anodine, convenue, qu'elle aurait pu servir pour des travaux pratiques dans un cours de bienséance. Il cessa de caresser ce genou offert. Que faire d'autre ? Lui parler, l'air de rien remonter le long de sa cuisse. Et après, il mettait son hésitation sur le compte de l'inexpérience. À regret, il s'apprêtait à retirer sa main avant de rejoindre le brouhaha dansant. Une sorte de retraite en rase campagne. Retour vers une solitude de bon aloi. « Vous hésitez ?» lui demanda-t-elle. « Vous vous demandez si ma main n'arrêtera pas la vôtre, si elle tente de s'aventurer plus haut. » Pour elle, comme pour vous, ce sera manifestement une aventure en terre inconnue. Quelque chose me dit que vous ne vous êtes jamais risqué si haut, tout en haut, dans l'ombre de ces cuisses dont vous rêvez si souvent, peut-être même tout le temps. Vous en avez rêvé et c'est tombé sur les miennes. Vous attendez quelque chose de moi, une sorte d'autorisation. Il la trouvait bien sûre d'elle, de son charme. Non, il n'en avait jamais rêvé. Sa main commença son ascension. Il l'envoyait en éclaireur, sorte de Christophe Colomb à la recherche des contrées du plaisir. L'afflux de sang fut une révélation. Si ses doigts continuaient ainsi leur progression, il n'avait qu'une vague idée de ce qu'il ressentirait. Lâcheté, peur. Toujours est-il qu'il s'apprêtait à en rester là, satisfait de constater que son corps n'était pas indifférent à la peau claire de sa voisine, quand cette dernière posa sa main sur la sienne. « Vous n'allez pas en rester là, » lui dit-elle, sans le regarder. Il sentit la main, ornée de bagues sans relief, faire pression sur la sienne pour l'entraîner plus haut. Il avait éveillé un désir, alors qu'il sentait que le sien, ou ce qu'il avait identifié comme tel, refluait vers le large. Les doigts se resserrèrent autour de ses phalanges. « Il n'allait pas la laisser comme ça, » lui dit-elle. Il décela de l'impatience et de l'agacement dans sa voix. Elle lui fit remarquer que c'était lui qui avait pris l'initiative, qu'il ne pouvait pas changer d'avis comme ça. Il ne répondit rien, tout en cherchant à se sortir de ce mauvais pas. Ça ne lui disait plus rien, et puis c'était tout. Était-ce si difficile à comprendre ? Tournant son regard vers la piste de danse, il aperçut Thomas. De sa main libre, il lui fit signe d'approcher. « Je te présente Thomas, mon compagnon. » La pression se relâcha.
Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jeté sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Il était 4h du matin, j'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un.
Il
Il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami. Dans sa tête, y'a que de la musique. Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gais, où il a des tas d'amis. Oui, je sais. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais.
La fait courte, une émission où les nouvelles sont bonnes, d'où qu'elles viennent.
Une fois. Vous voulez que je vous parle de ma vie sexuelle, c'est ça? Oui? J'insiste, parce qu'il arrive que nous disions oui alors que c'est non. Vous savez ce que c'est? C'est idiot, mais nous nous sentons parfois obligés. Sitôt dit oui, on regrette. Nous avons quelques secondes pour dire en fait non. Mais quelques secondes, c'est vite passé. Pas le temps de tourner cette fois la langue dans sa bouche. Et puis, personne ne nous a obligés à dire oui. Si après le oui, nous disons non, nous nous exposons aux célèbres, alors c'est oui ou c'est non, faudrait savoir. Nous sommes confrontés à la valeur relative des mots. Quand nous disons oui, là, pas de problème. C'est reçu 5 sur 5. Pas d'ambiguïté. Quand nous disons oui, c'est comme si nous disions oui. Mais si tout de suite après nous disons non, là, le doute s'installe. C'est comme si notre non n'effaçait pas complètement notre oui. Comme s'il restait des traces de ce oui initial. Il faut reconnaître à leur décharge que notre oui et notre non ont la lettre O en commun, ce qui peut introduire le doute, porter à confusion. Si, si, je vous assure. Alors, ce que je conseille en général, c'est de commencer par dire non. Mais une seule fois, non. Parce que si vous dites non deux fois, voire trois fois, il peut y avoir à nouveau confusion. C'est vrai, quand vous dites non une fois, c'est clair, c'est non. Vous affirmez, c'est net. Rien avant, rien après. Un non tout seul, comme un nez au milieu du visage. Mais quand vous dites deux fois non, il y a flottement. Si vous éprouvez le besoin de répéter, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Un deuxième non peut être interprété comme un regret d'avoir dit le premier, comme un premier pas vers le oui. Et faites-moi confiance, lui va se faire un plaisir de vous accompagner sur le chemin qui mène au oui. Vous allez l'atteindre vitesse grand V. D'aucuns ne vont même pas attendre d'arriver à destination. Si nous disons une seule fois non, cela nous laisse la possibilité de dire oui plus tard, bien plus tard, ou jamais. Attention, deux fois oui, et nous ne sommes pas loin d'être une salope. Alors, ma vie sexuelle, c'est oui ou c'est non, faudrait savoir.
Les nouvelles que vous avez eu le plaisir d'écouter vous ont été respectivement interprétées par Maria Vitali, Denis Lucas, Pierre Chedville. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés.
Habillage sonore, Jean Clarksville.
Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, bonne nouvelle, bonne nouvelle.